La liturgie des heures, prière de toute l'Église. C'était le titre de l'intervention du frère Benoît-Marie Solaberrieta, prieur de l'abbaye Notre-Dame de Belloc, intervention enregistrée le 11 mars 2017 à l'abbaye de Belloc lors de la journée de formation proposée par le service diocésain de pastoral liturgique et sacramentelle et de la commission diocésaine de musique liturgique. La liturgie des heures, prière de toute l'Église. Dans cette première partie, le frère Benoît-Marie Solaberrieta nous propose une brève histoire de la liturgie des heures. Le frère Benoît-Marie, prieur de l'abbaye de Belloc.
Il nous est proposé de découvrir ou d'approfondir ou de redécouvrir une manière vraiment spécifique de mettre en œuvre la prière des psaumes, de prier les psaumes, mais dans un cadre très précis. Lequel ? Celui que l'Église, j'appelle l'Église, quand je parle de l'Église, c'est pas le bâtiment, c'est l'ensemble des chrétiens. L'Église propose, celui que donne l'Église pour sa prière officielle. Il y a une prière officielle dans l'Église que nous appelons aujourd'hui la liturgie des heures. J'y reviendrai. Mais qui, dans le passé, a eu d'autres appellations que nous utilisons, que nous entendons, mais dont le sens nous est souvent inconnu ou mal connu. Alors, juste en introduction... Je suis dans l'introduction. Voyons le vocabulaire, ces titres, ces termes. D'abord, un terme que nous avons tous entendu, le terme de bréviaire. C'est ce nom qui a prévalu jusqu'au début des années 70, mais qui finalement n'a qu'une expression très... une signification très expressive. Cette appellation devrait être abandonnée, ne plus être utilisée. Pourquoi ? Bréviaire, en français, vient du terme latin breviarium, qui veut dire abrégé, condensé, codifié, voilà. Sommaire, si vous voulez. Ce terme a été donné assez tardivement, puisque c'est au 14e, 15e siècle, pour nous ça fait loin, mais dans l'histoire de l'Église, c'est quand même pas le début, au moment où, j'y reviendrai, au moment où les prêtres et les religieux ont commencé à circuler assez souvent dans les routes et les campagnes, et qui, pour leur prière, avaient besoin d'un livre. Évidemment, jusqu'alors, ils avaient des grands livres qui restaient dans les cathédrales ou dans leur couvent. Ils ne pouvaient pas transporter cela. Donc, ils ont fait un abrégé. Ils ont fait un abrégé du livre de prière, d'où le terme breviarium. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus d'abrégé. Les livres qui nous sont présentés, c'est la prière complète. Donc, il n'y a plus à employer le terme bréviaire. Si vous l'entendez, ne vous mettez pas en colère surtout, mais avec le sourire, vous dites « Ah, je crois que ce terme est un peu caduque. » Voilà. Deuxième terme qu'on entend toujours et qui n'est pas faux, l'office divin. C'est surtout dans le cadre monastique, c'est vrai. L'office divin, office qui vient du terme latin, peu importe, qui veut dire « devoir ». C'est une expression que on trouve pour la première, alors qui est beaucoup plus ancienne, qui date du 5e siècle et qu'on trouve dans la règle Saint-Benoît. Bien. Et puis le troisième terme, liturgie des heures. Ce nom fut utilisé pour la première fois en 1959. Alors vous voyez, c'est assez récent, mais il va être repris dans plusieurs publications et c'est le nom actuel pour désigner la prière officielle de l'Église. La liturgie des heures. Alors, liturgie, parce que cette prière est une prière publique d'Église, qui appartient à l'Église tout entière, c'est-à-dire à l'ensemble des membres de l'Église, donc à l'ensemble des baptisés. Et puis des heures, j'y reviendrai aussi, parce que cette prière est essentiellement une prière destinée à honorer, sanctifier les heures du jour et de la nuit, donc dans le temps. L'expression liturgie des heures indique donc qu'il s'agit d'une liturgie qui a comme caractéristique la sanctification du temps, sa consécration à travers les diverses heures du jour et de la nuit. Et puis, dans le monde francophone, une autre expression est apparue pour désigner cette prière, l'expression prière du temps présent. Prière la prière du temps présent, d'aujourd'hui. En fait, c'est une appellation tirée du livre de la liturgie des heures en français, c'est ce livre-là, voilà. Et on en a fait prière du temps présent, et c'est devenu un terme générique, voilà. Alors, à la question initiale, primordiale, qui sous-tend tout l'enjeu de notre journée, cette question peut se poser en ces termes. La liturgie des heures, la prière officielle de l'Église, est-elle réservée, disons aux ministres ordonnés, disons aux diacres, aux prêtres, aux évêques, aux religieux, religieuses, ou cette prière s'adresse-t-elle à l'ensemble des baptisés, à l'ensemble du peuple de Dieu, à l'ensemble de l'Église? Eh bien, à cette question, il faut répondre clairement que cette prière a été originairement la prière du peuple de Dieu, de tous les baptisés, et que peu à peu, je vais vous le montrer, peu à peu, elle est devenue la prière réservée à une catégorie de ce peuple de Dieu, que sont les prêtres, ou plus largement ceux qui sont ordonnés, prêtres, diacres ou évêques. Et il faut surtout se dire que cette prière du peuple de Dieu, aujourd'hui, à la suite du Concile Vatican II, elle a été retrouvée, elle a été remise en valeur. Et il est bon de prier avec cette prière officielle de l'Église. Une brève histoire, je serai assez rapide, de cette liturgie des heures. Pour comprendre la liturgie chrétienne en général et la liturgie des heures en particulier, il faut se rappeler que Jésus et ses premiers disciples étaient, et on l'oublie, des juifs pratiquants. Et ceux qui ont bâti les premières prières chrétiennes se sont basés sur la prière juive de leur temps. Et nous trouvons de nombreux éléments de la liturgie juive dans la liturgie chrétienne. Vous savez, on a tous fait cette expérience, pas que pour la prière, pour toute chose. Lorsqu'on doit faire quelque chose, on s'appuie sur ce qu'on connaît. Et les premiers chrétiens se sont appuyés sur les prières qu'ils connaissaient, c'était les prières juives. Alors bien sûr, ensuite, ils les ont christianisées. Et puis des éléments nouveaux, sont arrivés au fur et à mesure des siècles. Mais au départ, la prière chrétienne, c'était la prière juive, en y mettant, bien sûr, la personne du Christ au centre, évidemment. Donc premièrement, la prière d'Israël. En de multiples circonstances, les Juifs avaient et ont encore coutume de prier au Temple de Jérusalem, lors de la Pâque, et on va vivre cela dans les évangiles de ce temps de carême et des dimanches qui approchent la fête de Pâques. On va voir combien les Juifs montaient à Jérusalem une fois par an, etc., pour vivre la Pâque. Ils priaient pendant le sabbat, chaque jour aussi ils priaient à l'occasion des grandes fêtes de pèlerinage. Autrefois, chaque jour, matin et soir, des sacrifices d'animaux avaient lieu au temple. Et pendant ces sacrifices, il y avait des prières. Et d'ailleurs, on trouve dans l'Évangile des passages où on voit Jésus et ses disciples qui se rendent au temple. Et puis après la mort et la résurrection du Christ, on voit les apôtres aller au temple après la Pentecôte. Voilà. En famille, en groupe d'amis, je vous l'ai dit il y a un mois, on priait les psaumes, on chantait les psaumes au moment des repas de fête, en particulier au moment du repas pascal. Chaque sabbat, c'est-à-dire samedi, comprend, un office, une prière d'entrée le vendredi soir, à la tombée de la nuit, un office du matin et un office de l'après-midi. Et évidemment, ces offices sont basés sur la prière des psaumes. Quotidiennement, seul ou avec d'autres, à la synagogue, le juif pieux, hier comme aujourd'hui, et Jésus l'a vécu, mais le juif pieux récite, le Kaddish. Quand on prend la traduction de cette prière juive, on reconnaît une de nos prières. Que soit magnifié et sanctifié son grand nom dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. Jésus s'est inspiré de cette prière dans la première partie du Notre Père. Et puis, trois fois par jour, les Juifs priaient et prient le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, il est un. Voilà. Deuxièmement, à l'aube du christianisme, c'est-à-dire au 1er siècle, certes, Jésus n'a pas inventé la liturgie des heures, mais il a invité quand même les disciples, et je le cite, à prier sans cesse, sans se décourager. Trouvons ça chez Luc, au chapitre 18, verset 1. Et puis, à le faire en commun. Jésus a invité ses disciples à prier ensemble. Eh bien, la prière de la première communauté chrétienne de Jérusalem s'enracine dans la prière juive, tout en inaugurant une prière et une liturgie nouvelle, propre aux chrétiens. On le voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les premiers chrétiens allaient prier au temple, et puis ensuite, ils se rendaient dans l'une des maisons des chrétiens pour une prière spécifique chrétienne, en particulier l'Eucharistie, bien sûr. Et puis, vous savez, les premiers apôtres étaient très fervents, donc à la sortie du temple, ils commençaient à dire, ben voilà, il y a le Christ qui est ressuscité, ils vont se faire mettre à la porte. Les Juifs vont dire, bon, arrêtez, ne venez plus. Petit à petit, la pratique de la prière au temple va disparaître chez les chrétiens et on va trouver un lieu pour se retrouver, précisément, dans le rythme que les Juifs avaient le matin et le soir. Et vous avez là l'origine de la liturgie des heures. Dans les premiers temps, au moins dans le premier siècle, c'est sûr, les chrétiens se retrouvaient le matin pour prier ensemble et le soir pour prier ensemble. Ah, il ne faut pas penser le matin pendant une heure et demie. C'était un temps fort, un quart d'heure, 20 minutes, et puis le soir, un quart d'heure, 20 minutes. Nous voyons cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 14. D'un seul cœur, les premiers disciples participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. C'est mentionné. Et puis, le livre des Actes des Apôtres affirme aussi que les membres de la communauté de Jérusalem, donc la première communauté chrétienne, étaient fidèles. On connaît bien cette phrase, oui, ce verset 42 au chapitre 2, étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres. C'était les apôtres qui disaient un petit peu ce qu'ils avaient vécu avec le Christ. À vivre en communion fraternelle, donc la fraternité, à rompre le pain, c'est l'Eucharistie, et à participer aux prières. Vous avez là l'origine de la prière officielle de l'Église matin et soir. Évidemment, la teneur précise de ces prières ne nous est pas connue. Cependant, au chapitre 4 des Actes des Apôtres, on nous dit ceci, « La prière des apôtres commence par un psaume pour aboutir à une demande adressée à Dieu au nom de Jésus. » Voilà la spécificité chrétienne, parce que les Juifs adresser les demandes, mais là, adresser à Dieu au nom de Jésus, son serviteur. Et évidemment, là, le psaume, l'interprétation du psaume est renouvelée et christianisée. Mais bientôt, assez vite, à partir des années 55-60, la communauté va éclater, va essaimer. L'Église va s'étendre hors de Jérusalem. Je passe les raisons pour lesquelles elle va essaimer, avec de nouvelles communautés dans un monde qui n'est plus juif, mais plutôt grec, en particulier à Corinthe, mais un monde qui est issu du paganisme, ou à Antioche, qui est davantage composé de juifs devenus chrétiens, qu'on appelle les judéo-chrétiens. Eh bien, les chrétiens de Corinthe auront évidemment une tendance à créer de toutes pièces ce qui est nécessaire pour leur prière. Ils n'ont pas de tradition juive. Donc, ils ne peuvent pas s'appuyer sur la tradition juive, ils ne la connaissent pas. Donc, ils vont d'eux-mêmes s'appuyer sur une autre tradition. C'est plutôt la tradition philosophique d'Aristote. Bon. Et nous avons, c'est très intéressant, dans des lettres de Saint Paul, des exhortations de Saint Paul, en particulier dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, et puis aux Colossiens, chapitre 3, qui nous renseigne sur le contenu de ces prières de ces communautés, disons, issues du paganisme. Voilà ce que dit saint Paul. « Dites entre vous des psaumes, des hymnes, tiens, un nouveau terme, et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. » Bon, il faut dire que dans ces communautés issues du paganisme, tout n'était pas parfait. Et il y avait entre les chrétiens quelques rivalités. Bon, et puis saint Paul va aussi écrire des lettres qui sont moins gentilles. On va le rappeler quand même. Qu'est-ce que c'est ces manières de faire, voilà. Même en milieu chrétien d'origine païenne, les psaumes demeurent la base de la prière. Mais à côté d'eux, naît un répertoire d'hymnes, de chants inspirés spécifiquement chrétiens. Et les lettres de saint Paul nous en livrent d'ailleurs des exemples. À plusieurs reprises, ces lettres citent des hymnes tirés des pratiques liturgiques en vigueur, alors dans les grandes villes, qui étaient Éphèse, Colosse, Philippe. Par exemple, en Éphésiens, chapitre 4, « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême », ou bien, un peu dans un autre chapitre, « Éveille-toi, ô toi qui dors », ou bien « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père », « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts ». Ce sont des hymnes très, très anciens, très primitifs, des premières communautés issues du paganisme dans le monde grec, que saint Paul va rappeler. Enfin, cela n'est pas de moindre importance, le premier document écrit chrétien qui n'est pas dans la Bible. Donc c'est un écrit qui date, d'après les spécialistes, des années 90. C'est formidable, c'est vraiment très, 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 très primitif. Que nous appelons, oubliez le terme, la Didaké, peu importe, ce document invite chaque fidèle, alors ça c'est, à réciter, à prier le Notre Père 3 fois par jour. Dès les années 90, un texte dit, voilà, prier le Notre Père 3 fois par jour, le matin, à midi, milieu du jour et le soir. Certes, nous pouvons le constater, au terme de ce premier siècle, il n'est pas encore question d'une liturgie des heures, mais nous en voyons déjà des éléments principaux. Donc, vous voyez que cette liturgie des heures n'est pas une invention récente, elle s'enracine sur des éléments très antiques, très primitifs. Troisièmement, les premières mises en forme. Alors, dès après le 1er siècle et le 2e siècle, la prière quotidienne du matin et du soir semble s'implanter dans les communautés chrétiennes. Alors, il y a une multiplicité de témoignages, j'en sors quelques-uns comme ça. Fin du 2e siècle, un prêtre célèbre qui s'appelle Hippolyte, qui habite Rome, il écrit ceci, que les diacres et les prêtres se réunissent chaque jour à l'endroit que l'évêque leur aura désigné, qu'ils instruisent ceux qui se trouvent en assemblée, c'est-à-dire les laïcs, et après avoir prié, que chacun s'en aille à ses affaires. Donc, dès la fin du 2e siècle, on invite les chrétiens à se rassembler. Un autre témoignage, alors c'est pas Rome, c'est Carthage. Carthage, c'est la Tunisie actuelle, toujours la même époque. Un grand penseur qui s'appelle Tertullien, peu importe, précise que l'on doit prier, alors lui, il donne des indications d'horaire, à la 3e heure, c'est-à-dire 9h du matin, car dans le monde à la fois sémitique et romain, la journée commençait à 6h du matin. La première heure, c'est 6h. Alors, 3e heure, c'est 9h du matin. Alors il dit, il faut prier à la 3e heure parce que c'est 9h du matin, pardon, c'est l'heure où l'Esprit-Saint est descendu sur les apôtres, à la Pentecôte. Il faut prier à la 6e heure, à midi à peu près, car c'est l'heure où l'apôtre Pierre eut sa fameuse vision alors qu'il était en prière dans le livre des Actes des Apôtres. Et puis il faut prier à la 9e heure, à 15h à peu près, qui est l'heure où Pierre se rendait au temple avec Jean et qui a guéri le paralytique. Bref. Il convient aussi de citer un autre document, toujours la même époque, fin second siècle, qui recommande à tous les fidèles, hommes et femmes, de prier plusieurs fois dans la journée, au lever, dans l'assemblée réunie pour l'instruction, etc. Et même ce document dit ceci, ne sois pas paresseux pour la prière. Et on voit apparaître, donc prière du matin, prière du soir, et la prière du soir va avoir, va se développer davantage que la prière du matin. Et la prière du soir, que l'on va très vite appeler la prière des vêpres, le terme vêpres venant du terme latin, vespertina, qui veut dire soir. Alors au début, c'était que pour le jour de Pâques, et puis ça va s'étendre au jour d'anniversaire des chrétiens qui vont mourir martyrs. Et puis on va intégrer, vous voyez, c'est ça qui est intéressant de connaître, c'est que les chrétiens vont intégrer des usages juifs. Les juifs, à la prière du soir, allumaient un grand chandelier. Voilà. On va allumer à la tombée du soir, durant la prière chrétienne, une lampe. Ça va être la prière du lucerneur. Et puis, il va y avoir une hymne qui va être composée, qui date de ces années-là, donc du IIe siècle, et qu'on chante encore aujourd'hui, « Joyeuse lumière, splendeur éternelle de la gloire du Père ». Voilà. Ces temps de prière ne structurent pas encore ce qui deviendra la liturgie des heures, célébrée en communauté, mais créent déjà une communauté priante qui pourra mieux s'exprimer à partir du IVe siècle. Pourquoi IVe siècle ? Parce qu'il y a un événement majeur pour le christianisme et pour tout le monde connu de l'époque, en 313, début 4e siècle, l'empereur Constantin va se convertir et il va décréter que désormais l'empire est chrétien et donc désormais tous les sujets de l'empire deviennent chrétiens. Alors, de religion pourchassée, à peine tolérée, on va devenir religion officielle et non seulement officielle, mais c'est que tout le monde devra être chrétien. C'est mon quatrième point, du Moyen-Âge à nos jours. Du fait que les chrétiens deviennent beaucoup plus nombreux, les lieux de célébration deviennent beaucoup trop petits. Les lieux de célébration, c'était souvent des maisons privées où il y avait une pièce qui était réservée aux chrétiens. Donc les chrétiens devront choisir des lieux beaucoup plus vastes pour célébrer, ne serait-ce que l'Eucharistie, mais pas que pour l'Eucharistie. Et ils vont opter pour un type de bâtiment qui existait déjà dans le monde romain, qu'on appelle la basilique. La basilique, c'est pas du tout chrétien au départ, c'était un bâtiment où l'empereur réunissait un petit peu la population. Et dans la basilique, à la fois, c'était le lieu de discussion, le lieu de jugement, le lieu de... Voilà. Eh bien, les chrétiens vont adopter ce type de maison pour célébrer le Christ ressuscité, en y mettant trois pôles. Il y aura une organisation et on va fixer trois pôles importants. D'abord, le siège de l'évêque, c'est-à-dire le lieu où l'évêque va résider. Je veux dire résider, c'est un siège qu'on appelle la cathèdre. D'où le terme cathédrale. La cathédrale, c'est l'église où il y a le siège de l'évêque, le fauteuil de l'évêque. Voilà. Alors, il y aura les trois pôles, la cathèdre de l'évêque, il va y avoir l'office monastique, et puis entre les deux, il y aura l'office des moines devenus évêques. Je m'explique. D'abord, l'office cathédral, l'office de la cathèdre. L'évêque, alors il ne faut pas penser l'évêque dans ces années-là comme aujourd'hui, hein. Un évêque résidait dans une ville principale et rayonnait dans la ville. Eh bien, tous les matins et tous les soirs, l'évêque réunissait autour de lui ses prêtres, les diacres et tous les chrétiens fidèles pour une prière. Une prière qui était une liturgie de prière où tout le monde était invité. Un office pour toute la communauté, autant le matin que le soir. Cet office était simple, était populaire. Les fidèles n'avaient pas besoin de livres. D'ailleurs, la plupart des gens étaient illettrés à l'époque. Donc, ils connaissaient par cœur les psaumes du matin, les psaumes du soir. Alors, chaque matin, chaque soir, ce n'était pas 10 psaumes qu'ils priaient. On pense qu'ils priaient à peu près 3-4 psaumes chaque matin et chaque soir. Et à force, ils connaissaient par cœur. Les hymnes, c'est-à-dire cette pièce chantée, j'y reviendrai tout à l'heure, qui chantait le matin pour louer Dieu, pour consacrer le jour qui débutait, ils connaissaient aussi par cœur. Et puis l'hymne du soir, qui était plutôt une hymne d'action de grâce pour la journée passée, pour les bienfaits reçus. Donc, chaque jour, j'ai marqué le peuple tout entier. J'exagère. Hein. Jamais tout le peuple n'a participé à ces prières, mais il y avait quand même une bonne participation du peuple des baptisés. Donc, ils célébraient l'office du matin, la prière du matin et la prière du soir. Et comme on est dans le monde latin, on désignait par un terme latin. Le terme de le matin, c'était laude, parce qu'en latin, laudes, c'est la louange du matin, ça va donner les laudes. Et puis, je l'ai dit pour les vêpres, c'est la prière du soir, vespertina, voilà, le soir. D'où les laudes et les vêpres. Dans ces prières du matin et du soir, à la cathédrale, on accordait une large place également à la prière d'intercession et aux bénédictions que le peuple appréciait. Le matin, on priait pour passer une bonne journée. Et le soir, on priait pour demander pardon pour les fautes commises. Voilà. Donc, une prière populaire. Deuxième type d'office, l'office monastique. Dans ces mêmes années-là. Parce que, à côté de l'office cathédral, existait l'office monastique. Célébré dans les monastères existaient déjà. Alors, il ne faut pas penser les monastères au 4e, 5e siècle, comme aujourd'hui. C'était des petites communautés, des toutes petites communautés de 6, 7, maximum 10, qui vivaient pas tout à fait dans la ville, plutôt dans la banlieue. Et là, les moines s'appliquaient à prier lentement tous les psaumes, mais beaucoup plus. Ils avaient davantage de temps. C'était leur vocation, c'était leur mission. Et une prière qui venait terminer chacun des moments de méditation. L'histoire. Alors, les moines se réunissaient plusieurs fois par jour, bien sûr. L'histoire de la liturgie nous montre que les monastères étaient perméables à ce qui se vivait ailleurs que chez eux. Et donc, les moines vont un peu intégrer ce qui se vivait à l'office de la cathédrale. Mais l'histoire de la liturgie nous montre aussi que l'office dans la cathédrale va aussi intégrer des éléments de la prière monastique. Il va y avoir, si vous voulez, un mélange. D'autant plus que, et c'est mon troisième point, l'office des moines devenus évêques, c'est qu'assez vite, on va commencer à choisir des évêques parmi les moines. Ce n'est pas une très bonne chose, mais c'est comme ça. Ce n'est pas une invocation, mais c'est comme ça. Et le moine qui est choisi pour être évêque, bon gré mal gré, tout le monde ne l'a pas accepté d'ailleurs, bon gré mal gré, il va essayer d'organiser autour de sa maison un nouvel office monastique. Il est moine, il va essayer d'organiser. Et évidemment, il va prendre la prière qui se faisait à la cathédrale, mais il va ajouter des éléments de l'office monastique. Vous comprenez bien que cet ajout, ce mixte, va profondément changer la prière du matin et du soir. Elle va devenir beaucoup plus longue, et le matin et le soir. Et puis, elle va devenir de plus en plus spécialisée. Et puis, il y a un phénomène qui se passe quand même. Alors, je vous dis en deux minutes ce qui s'est passé en trois siècles. Hein. Bon, évidemment. Un phénomène, on l'oublie trop souvent, c'est que la langue latine, qui était une langue parlée dans la région de Rome, la région large de Rome, la langue latine, au contact des langues locales, va donner ce qui deviendra le français, ce qui deviendra l'allemand, je vais vite là, ce qui deviendra l'espagnol. Et de plus en plus, et l'italien évidemment, De plus en plus, les gens vont comprendre de moins en moins la langue latine. Et il va arriver un moment, et ce moment c'est le 8e siècle, où les gens ne comprendront plus la langue latine, alors que les offices se font toujours en latin. Donc les gens vont déserter peu à peu les offices du matin et du soir. Et ces offices vont devenir des chasses gardées de la prière des prêtres et des moines et des moniales. Au bout du compte, l'influence des pratiques monastiques sur l'office cathédral va rendre de plus en plus difficile la participation des laïcs à la liturgie du matin et du soir. Ce qui était la prière du peuple de Dieu va devenir alors une prière de prêtres. Et ce qui était une prière de prêtres avec le peuple va devenir une prière cléricale, monastique, célébrée d'abord loin du peuple, puis sans le peuple. Voilà un bien triste sort fait à ce qui à l'origine était la prière de tout un peuple. Quatrièmement, enfin 144, les raisons de la décadence. Plusieurs raisons s'étalent dans le temps, de manière certainement diversifiée dans une église, dans une autre, depuis le Xe siècle. Mais ces trois raisons sont... Il y a trois ordres. D'abord, le premier concerne l'évolution survenue dans la liturgie des heures. La seconde, c'est l'évolution survenue dans la vie des prêtres. Et la troisième raison, on l'oublie trop souvent, il y a une révolution qui va s'opérer à partir de là, c'est l'invention, la création de l'imprimerie. Je reprends. Nous l'avons dit, à partir du moment où les moines se mettent à participer à la liturgie célébrée dans la cathédrale, ils vont introduire progressivement dans cette liturgie leurs propres usages. Alors davantage de psaumes, des musiques plus enjolivées, plus sophistiquées. Et là, le peuple va... On est quand même dans une civilisation où les gens ne savent pas lire. Donc... De plus en plus, il s'écarte, il s'éloigne de ses prières. Et pour participer, il fallait maintenant des livres qui étaient très coûteux, il fallait connaître le chant. Le peuple ne connaissait pas le chant. Or, les fidèles, je l'ai dit, étaient souvent illettrés. Et lorsque le chant va se complexifier, il ne reste plus qu'à l'écouter, comme spectateur. Et puis, vers le temps où réciter en latin, l'office n'est plus compris par le peuple. C'est le cas d'ailleurs, pas que du peuple, mais dans les monastères, vous savez, il y avait deux catégories de moines. Il y avait les moines qui travaillaient dans les champs, et puis il y avait les moines qui priaient. Les uns étaient au service des autres. Bon, ça n'existe plus. Je vous le signale. Ceux qui travaillaient dans les champs ne connaissaient pas le latin. Donc, petit à petit, ils ne connaissaient plus la prière des psaumes. Ils vont remplacer la prière des 150 psaumes par la prière des 150 « Je vous salue » du chapelet. C'est là l'origine. Hein, voilà. Et puis, on va leur dire de réciter des Notre Père aussi. Bien. Ajoutez à cela qu'au 14e, 15e siècle, c'est un même mouvement tout ça, on va commencer à construire dans les églises, dans les grandes églises, les cathédrales ou dans les grandes églises des paroisses urbaines, on va faire dans les églises une petite église en construisant ce qu'on appelle des jubés, c'est-à-dire c'est des murs, des grands murs. On fait une église dans l'église. Dieu merci, le concile de Trente au XVIe siècle va dire détruisez ces murs pour que le peuple de Dieu puisse participer. La plupart des évêques vont obéir, mais certains vont désobéir. Heureusement, parce que nous avons là des témoignages. Par exemple, si vous allez à la cathédrale d'Albi, vous avez le jubé d'Albi qui est magnifique. Et on comprend bien, on comprend là combien le peuple de Dieu ne participait plus du tout à la liturgie, puisque dans la cathédrale, il y a une petite église. On entend au loin les sons. Voilà. Alors déjà, on supprime. Le chœur, dans le chœur prenaient place les prêtres, et dans la nef se trouvaient les autres membres de l'assemblée, les laïcs, qui n'avaient plus qu'à se laisser charmer par la prière des clercs. Mais ce n'était plus leur prière. Il faut aussi considérer la vie des prêtres. Tant que les prêtres vivaient autour de l'évêque, autour de la cathédrale, en milieu urbain, ça allait. Ils priaient le matin, ils priaient le soir ensemble. Et puis petit à petit, avec le développement des campagnes, les prêtres vont être nommés dans des paroisses, l'apparition des paroisses aussi, les paroisses apparaissent au 9e siècle, 9e, 10e siècle, avec l'apparition des paroisses, les prêtres vont loger dans les paroisses, ils vont être seuls. Ils ne pourront plus participer à la prière commune. Alors là, ils vont aussi se déplacer. Mais pour la prière, il leur fallait un support. C'est là qu'apparaît le bréviaire. On va faire des abrégés. Bien. J'ai dit également que l'invention de l'imprimerie va avoir des conséquences importantes. Parce que jusqu'à présent, j'ai parlé de la prière du matin et du soir communautaire. On s'est réunissait autour de l'évêque, etc. L'office était communautaire. La récitation individuelle n'existait pas. Parce que les livres étaient très rares et ils étaient énormes. C'était des manuscrits. C'était des livres qui étaient à peu près comme ça. Bon. Mais à partir du XIIIe siècle, il y a des religieux qui vont commencer à circuler, qu'on appelle les franciscains, les dominicains, les grands voyageurs. Ils avaient besoin d'eux. Donc on va leur faire un abrégé, le bréviaire, petit livre portable, abrégé des grands. Et puis l'imprimerie va augmenter encore les possibilités d'édition. Ce qu'il fallait, il fallait presque une vie pour écrire un livre. L'imprimeur, en quelques jours à l'époque, il fallait quand même plusieurs jours, imprimer un livre. Voilà. Donc, conséquence malheureuse, la récitation individuelle va complètement supplanter la célébration communautaire des heures, sauf pour les moines et les religieux qui vivaient en communauté. Donc, la prière communautaire des prêtres est maintenant devenue une prière privée. Cette situation, donc on est là au 13e, 14e, 15e, va perdurer jusqu'au Concile Vatican II. Alors, quand je fais comme ça cet exposé, il y a toujours des gens qui me disent « Mais non, moi j'ai connu dans les années 50, on priait ensemble les vêpres, etc. » Alors, j'ajoute, bien sûr, au XXe siècle, il va y avoir une évolution. Les décisions ne sont pas prises comme ça du jour au lendemain. Et à partir du... C'est après la guerre 14-18, hein, on va commencer à proposer dans les paroisses, le dimanche ou les grandes fêtes, une prière des vêpres, le dimanche après-midi ou le dimanche fin de soirée. C'était déjà une amorce de proposer au peuple de Dieu de se réapproprier la prière de l'Église. Sauf que, cette prière était en latin. Bon, et puis, ceci se passe également, c'est concomitant avec un mouvement, et ça c'est au niveau musical, un renouveau, du chant grégorien dès la fin du 19e siècle. Je sors un peu long terme, mais ça va ensemble. Fin 19e siècle, des gens très précis, des grands musiciens vont redécouvrir la beauté du grégorien qui avait été abandonné dès la fin du Moyen-Âge. Bon. Et donc, ceci s'ajoutant à cela, au cours du 20e siècle, on va développer la prière des vêpres dans les paroisses. Mais il faut attendre le Concile Vatican II, et c'est le cinquième point, 15, qui a accompli un travail de réforme considérable concernant la liturgie des heures. Et la liturgie des heures, désormais, est déclarée, je cite, « La liturgie des heures est la voix de l'Église, c'est-à-dire de tout le corps entier adressant à Dieu une louange publique. » Les évêques au Concile réaffirment que la prière de l'Église est la prière pour tout le peuple de Dieu et pas simplement pour les prêtres. Alors bien sûr, il va y avoir un travail de dépoussiérage. Jusqu'au Concile Vatican II, chaque prêtre, le matin et le soir, avait 9 psaumes. On va diminuer à la demande à 3 psaumes. On va réaménager, on va y mettre une prière d'intercession, ce qu'on a vécu tout à l'heure, etc. Mais il y aura une invitation pressante à ce que ce type de prière devienne la prière de tous les chrétiens, de tous les baptisés. Je cite là un document, c'est la présentation justement générale de la liturgie des heures. Qu'est-ce qu'on lit au numéro 27? 23 d'abord. À ceux qui ont reçu les ordres sacrés, c'est-à-dire les ordonnés, ou une mission canonique particulière, incombe la tâche d'organiser et de diriger la prière de la communauté. Ils auront donc à cœur d'inviter les fidèles, tous les fidèles, et de les former par la catéchèse voulue à célébrer en commun, surtout le dimanche et les jours de fête, les parties principales de la liturgie des heures. Et un peu plus loin, numéro 27, les groupes de laïcs, partout où ils se réunissent, seront également invités à accomplir la liturgie des heures, la liturgie de l'Église, en célébrant une partie de la liturgie des heures. Fin de citation. C'est ce que nous avons vécu tout à l'heure. Et là, je fais une pause. Voyez, je ne fais pas de publicité, hein, mais c'est comme ça. Magnificat, mais j'ai aucune action, je fais Magnificat. Magnificat propose, puis il y a d'autres, tous les jours, une prière du matin, une prière du soir, qui est du type, qui est de la structure de la liturgie des heures, mais simplifiée. Il y a une hymne, un psaume, et ça, c'est excellent. En tous les cas, moi, je remarque une chose, c'est que depuis de nombreuses années, mais ça, c'est un constat, la structure de la prière de la liturgie des heures est en train d'être réinvestie par le peuple chrétien. Et j'en suis très heureux. Vous voyez, on peut s'étonner, on peut s'émerveiller, on peut s'interroger quand on entend dire que, par exemple, à Thésée, eh bien, c'est la liturgie des heures qui est au cœur des rencontres internationales chaque année. On peut s'étonner, on peut s'émerveiller que dans telle ou telle paroisse, quelques personnes se réunissent le matin ou le soir pour une prière des heures que préside le prêtre, soit avant la messe du matin, soit avant la messe du soir. Et j'ajoute, ce qui se fait dans certains lieux peut se faire dans d'autres, bien sûr. Sans rien enlever à l'acquis des siècles, le Concile Vatican II nous rappelle que cette prière de la liturgie des heures appartient à toute l'Église et doit être prise en charge par toute l'Église. Et là, je termine cette petite fresque historique qui était nécessaire. C'était nécessaire pour comprendre d'où on vient, ce qu'on a vécu. J'ai plusieurs fois été témoin, lorsque j'étais étudiant à Paris, prenant le métro, j'ai été plusieurs fois témoin de personnes dans le métro qui étaient avec Magnificat ou carrément le livre, prier le temps présent, et qui priait dans le métro, ou le RER surtout. Voilà, la prière du matin.
La liturgie des heures, prière de toute l'Église. Vous venez de suivre la première partie de l'intervention du frère Benoît-Marie Solaberrieta, prieur de l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Dans cette première partie, le frère Benoît-Marie nous a proposé une brève histoire de la liturgie des heures. La semaine prochaine, dans la seconde et dernière partie de son intervention, le frère Benoît-Marie nous parlera de la liturgie pour sanctifier les heures et nous proposera une petite pédagogie de l'office. Rendez-vous demain à 17h.